Laudetur Jesus Christus.
Le chef de la diplomatie vaticane inquiet des dérives quant à la protection des droits de l'homme en temps de pandémie. Dans un message vidéo enregistré en marge de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mgr Gallagher revient sur les conséquences de la pandémie sur la protection des droits humains. Alors que les appels se multiplient pour un accès universel aux vaccins contre le Covid-19, comme ceux de la Comécée de Caritas Europe ce mardi, la vaccination a, elle, commencé pour les Palestiniens de la bande de Gaza. Une campagne qui se fera comme en Cisjordanie par étapes, nous retrouverons notre correspondante à Jérusalem. Dans ce journal également, nous ferons un point sur la pression internationale qui s'accroît sur la junte militaire en Birmanie. Et puis la Russie renouvelle son soutien au Bélarus. Le président Alexandre Loukachenko était reçu hier par son homologue Vladimir Poutine.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour à tous. Le chef de la diplomatie vaticane ne cache pas ses inquiétudes des dérives quant à la protection des droits de l'homme en temps de pandémie. Dans un message vidéo diffusé lors de la 46e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Mgr Paul-Richard Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, est revenu sur les conséquences de cette pandémie de coronavirus sur la protection et la promotion des droits de l'homme universels, Marine Henriot.
Oui, Olivier, le chef de la diplomatie vaticane est inquiet. Sous couvert de protéger la santé publique, certaines mesures imposées par les autorités portent atteinte au libre exercice des droits de l'homme. Et par exemple, certaines personnes en situation de vulnérabilité, comme les personnes réfugiées ou les populations autochtones, cite-t-il, sont touchées de manière disproportionnée par cette crise actuelle. Alors, Mgr Gallagher avertit, toute limitation de l'exercice des droits de l'homme pour la protection de la santé publique doit découler d'une situation de stricte nécessité. À la tribune des Nations Unies, le Saint-Siège tient donc à réitérer son message. En ces temps de pandémie, il est urgent de protéger la liberté de pensée, de conscience et de religion, car cette liberté religieuse est en train de s'éroder. Pour combattre les dangers qui nous guettent, il faut aller au-delà de ce qui nous divise, invite le chef de la diplomatie vaticane. Et l'invitation du pape François dans l'encyclique Fratelli Tutti est donc plus que jamais actuelle. Reconnaissons la dignité de chaque personne humaine pour contribuer à la renaissance d'une aspiration universelle à la fraternité.
Merci beaucoup Marine Henriot. Et hier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, déplorait que la pandémie soit utilisée par certains pays pour, je cite, « réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail de certaines organisations non gouvernementales », sans pour autant citer le nom de ces pays. Un message prononcé lors de son discours annuel devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La vaccination pour tous a commencé par les plus vulnérables. Dans un communiqué conjoint, la Commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, la Comécée et Caritas Europe demandent aux institutions européennes de garantir l'accès aux vaccins pour tous et notamment pour les populations des nations les plus pauvres. Il s'agit là d'une urgence morale mondiale, rappelle-t-elle. L'Union européenne qui est ainsi invitée à définir rapidement et en détail sa stratégie en matière vaccinale et à mettre en œuvre des campagnes de vaccination de masse, non seulement pour la sécurité et la protection de l'Europe, mais aussi pour les personnes vivant dans les nations les plus pauvres. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. La campagne de vaccination justement contre le Covid a pu finalement, elle, commencer auprès des Palestiniens de la bande de Gaza hier. Après des semaines d'incertitude sur la livraison de vaccins russes Sputnik V, Gaza toujours soumis à un strict blocus israélien, les quantités restent limitées, environ 22 000 dans un territoire où vivent plus de 2 millions de personnes. La campagne se fera par étapes comme en Cisjordanie. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Après bien des difficultés, des dizaines de milliers de vaccins sont donc finalement arrivés dans la bande de Gaza ces derniers jours. D'abord 2000 doses transférées la semaine dernière par l'autorité nationale palestinienne et qu'Israël avait refusé au départ de laisser entrer. Certains députés exigeaient en effet une contrepartie, que le Hamas rende les corps des soldats tués qu'il retient depuis l'offensive dévastatrice de 2014. Ces vaccins sont finalement entrés dans la bande de Gaza, de même qu'un lot de 20 000 doses en provenance directe des Émirats Arabes Unis, qui vient de normaliser ses relations avec la puissance occupante israélienne. L'opération ne serait pas tout à fait désintéressée. Le groupe auteur de cette donation étant proche de l'ancien membre du parti présidentiel Mohamed Darlan, qui a été exclu du Fatah et vit en exil aux Émirats Arabes Unis. Les quantités de vaccins disponibles restant limitées, la campagne se fait donc par étapes. La priorité a été donnée, comme en Cisjordanie, au personnel médical, puis viendra le tour des personnes âgées et des malades. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Au sommaire également de l'actualité internationale, la junte birmane de plus en plus sous la pression de la communauté internationale, alors que des milliers de personnes ont défilé encore hier dans les rues du pays pour dénoncer le coup d'État d'il y a 3 semaines. Les condamnations et sanctions sont venues ces dernières heures des États-Unis, de l'Union européenne ou encore du G7. Tous promettent d'autres mesures si la répression de l'armée ne cesse pas face aux manifestants. Côté européen, pour l'heure, on vise plutôt, Delphine Allaire, le portefeuille des militaires.
Et oui, Olivier, des sanctions ciblées contre les intérêts économiques et financiers des militaires birmans, décision prise hier soir par les ministres des Affaires étrangères de l'UE et qui appelle de concert à la désescalade, la libération immédiate et sans condition d'Aung San Suu Kyi et du président Win Myint et la restauration du gouvernement civil. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, justifie ce choix de sanctions économiques car en Birmanie, les militaires sont souvent entrepreneurs et détiennent des pans entiers de l'économie, voilà qui devrait donc les toucher. Les voies de communication diplomatique restent elle ouverte avec Rangoon, mais les condamnations commencent à s'empiler. Ce matin encore, le G7 juge inacceptable l'utilisation de balles réelles contre des personnes non armées lors des manifestations. Et à Washington, l'administration Biden exige libération immédiate des prisonniers et gouvernement civil aussi, décrétant des sanctions visant en particulier le général de l'armée de l'air birman et un lieutenant général. Au total, maintenant, dans les manifestations massives depuis le putsch il y a 3 semaines, près de 700 personnes ont été arrêtées, inculpées ou condamnées. Mais jusqu'à présent, la répression militaire n'a pas dissuadé les manifestants. Ils étaient en effet encore hier des dizaines de milliers à Naypyidaw, la capitale administrative.
Merci beaucoup Delphine Allaire. La Malaisie, elle, a expulsé plus d'un millier de migrants birmans ce mardi, malgré les nombreuses critiques et un arrêt demandant la suspension de ces expulsions. Des migrants embarqués à bord de 3 bâtiments militaires birmans, parmi eux des Chines, une minorité essentiellement chrétienne, et des personnes originaires des états Kachin ou Shan, marquées par des années de conflit. Tous ceux qui ont été expulsés ont accepté de rentrer selon leur plein gré, sans y être forcés, ont expliqué les autorités malaisiennes. Plusieurs ONG dénoncent une violation du droit international. L'Ukraine engage des poursuites devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la Russie, qu'elle accuse d'avoir mené des opérations d'assassinat ciblées contre des opposants présumés. Le gouvernement ukrainien qui accuse également Moscou d'organiser délibérément des opérations de dissimulation visant à contrecarrer les efforts pour trouver les responsables, sans pour autant donner plus de précisions sur ces assassinats. La Russie qui, elle, a rappelé ses liens indéfectibles avec son voisin Bélarusse. Alexandre Loukachenko a rencontré hier son homologue Vladimir Poutine à Sotchi. Au menu de la rencontre entre les deux présidents, la poursuite et le développement des échanges bilatéraux entre Moscou et Minsk. C'est la deuxième rencontre en 6 mois pour les deux hommes. Mais si Loukachenko était aux abois au mois de septembre dernier, il est actuellement en bien meilleure position. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Davantage que sur le fond, c'est surtout la forme de cette visite qui fait du bien à l'image d'Alexandre Loukachenko. Le président biélorusse est venu à bout de la contestation populaire qui réclamait son départ depuis sa réélection controversée en août dernier. Officiellement, la question de la réforme constitutionnelle réclamée par Moscou en septembre dernier n'a pas été discutée. S'afficher avec le président russe à Sotchi, tant sur les pistes de ski que durant des réunions de travail, permet ainsi à Alexandre Loukachenko de rassurer l'élite biélorusse en lui signifiant que la relation avec Moscou est pacifiée. C'est du moins ce qu'il ressort de la rencontre. Les deux hommes ont évoqué les livraisons du vaccin Sputnik V et la possibilité de le produire en Biélorussie directement. Il a également été question de coopération militaire et de l'ouverture de nouveaux axes routiers entre les deux pays, car la Biélorussie ne peut pas vivre sans le soutien économique de Moscou. Concrètement, les deux hommes tentent d'aplanir les différends liés à l'intégration économique accrue entre les deux pays, souhaitée par Moscou et qu'Alexandre Loukachenko a jusqu'ici freiné au maximum. Sa position est-elle tenable? Difficilement. Mais au-delà de ces questions, il a pu s'afficher avec le président russe, ce qui lui permet de dire à ses détracteurs que son pouvoir reste intact. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, cette information du Liban où les côtes sont polluées par une marée noire. Des boulettes noires ont été retrouvées sur les plages du sud du pays. Des dizaines, voire des centaines de tonnes de pétrole se sont échappées d'un navire du port israélien d'Ashdod. Les ONG de protection de l'environnement appellent à des actions immédiates pour contenir cette pollution qui pourrait encore remonter vers le nord en raison des courants marins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Vous serez en compagnie d'Hélène Destombes. L'information continue sur notre site vaticannews.va. Je vous souhaite, quant à moi, une excellente après-midi.